Donc le thème de l'écoute. Alors, je trouve ça assez marrant que sur le thème de l'écoute, finalement, ben, y a peu de gens ici que beaucoup de gens ont eu des difficultés, soit d'organisation. De virus, enfin voilà. Donc c'est une écoute qui finalement a du mal à se faire, mais en même temps c'est vraiment le thème de l'écoute, en tout cas par rapport à la psychanalyse et par rapport à la psychologie, on peut vraiment dire que l'écoute est au centre de notre métier et c'est aussi notre difficulté principale. Pour qu'on soit au maximum de la difficulté d'organisation ce soir, ça illustre assez bien, je trouve, le thème de ce soir. Alors, l'écoute, ben, oui, c'est, je disais que c'est au centre de la psychanalyse, au centre de notre travail de thérapeute. Mais qu'est-ce qu'on écoute finalement? Qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on souhaite finalement obtenir de cette écoute? Alors, ben, l'objet d'abord, l'objet de l'écoute, c'est les gens déjà qui viennent nous rencontrer. Ils viennent avec une demande, que ce soit une demande plutôt souvent privée, particulière. C'est voilà, avec une plainte sur des difficultés personnelles, mais ça peut être aussi sur des difficultés de vie privée de couple ou familiale. Puis, bien sûr, des difficultés aussi professionnelles. Ces derniers temps, c'est aussi il y a une grande demande par rapport à ça. Donc, évidemment, on peut dire que en fonction des gens qui vont venir, ou en tout cas de ce qu'ils vont nous demander d'écouter, on va avoir une écoute plutôt particulière, c'est sûr. Mais en fin de compte, cette écoute-là, c'est un premier niveau d'écoute. C'est-à-dire, oui, on va essayer de comprendre. Pourquoi ils viennent, comment on peut répondre à leur demande, comment on peut faire en sorte que, ben voilà, on réponde et on les soulage, on les accompagne au mieux par rapport à cette demande. Maintenant, on va un petit peu se décentrer pour parler plus particulièrement de l'écoute. Psychanalytique, de l'écoute du psychanalyste qui va lui avoir, on peut dire, une certaine écoute particulière parce qu'il va essayer, en accompagnant chaque personne dans sa démarche particulière et singulière, la psychanalyse, le chemin psychanalytique, il va essayer. Bah, avec cette écoute-là, d'orienter la personne. Alors, d'ailleurs, je vais essayer de décrire ça, mais c'est à la fois simple et finalement quand même assez compliqué à appréhender. D'abord, on dit, si on prend une réflexion du psychanalyste Bion, psychanalyste anglais, qui disait pour avoir une bonne écoute en psychanalyse, il faut appréhender chaque séance avec, comme si on n'avait plus de mémoire, c'est-à-dire comme si chaque séance était une nouvelle séance, comme si on n'avait pas de désir de vouloir faire quelque chose. De vouloir guérir, de vouloir. Voilà. Sans désir. qu'il n'y ait pas d'attente particulière autre que celle d'écouter. Alors, pourquoi ce présupposé, on va dire, qui est lié à l'écoute? En fait, c'est pour essayer, évidemment, d'enlever, de mettre de côté tout ce qui va finalement parasiter l'écoute, c'est-à-dire tout ce qui va parasiter de ce qui vient du psychanalyste. C'est-à-dire, il va, la mémoire, ça va être s'il est à dire, voilà, je me souviens, il a dit ça, je pense que ça, j'ai réfléchi à ça, il va, lui, en quelque sorte, parasiter cette écoute. Donc, l'écoute psychanalytique type, ça serait justement celle qui permettrait d'être une sorte de pureté d'écoute, on va dire, où là, on essaie de saisir sans parasite le discours, la parole de la personne qui est en analyse. Donc, ça, c'est la démarche du psychanalyste, c'est-à-dire d'essayer de ne pas mettre de lui, d'être le plus possible en retrait dans sa personne et d'être uniquement entièrement à l'écoute. Et évidemment, cette position particulière de l'écoute va permettre au psychanalyste d'essayer de décrypter le message inconscient de la personne en analyse, c'est-à-dire qu'au travers son discours, au travers ses paroles, le psychanalyste, dans cette position d'écoute particulière, va pouvoir saisir quel est le message inconscient qui se cache derrière cette parole. Donc, vous voyez, c'est à la fois un peu à la fois en paradoxe, c'est-à-dire c'est quand le psychanalyste va être le plus en retrait, va être silencieux, qu'il va avoir la meilleure écoute, et en ayant cette écoute-là, la meilleure possible, il va conduire le mieux la psychanalyse et donc aider le mieux la personne en analyse, le patient. Donc c'est sur à la fois la dimension je suis en retrait du psychanalyste, j'essaye de ne pas parasiter ce discours-là, que ça va permettre donc de conduire au mieux la psychanalyse. Alors, vous me direz, comment peut-il conduire cette psychanalyse s'il est silencieux et s'il est aussi en retrait? Et bien justement, c'est-à-dire que comme il va être dans la compréhension profonde, grâce à cette écoute très particulière, il va dans la compréhension profonde de la problématique de la personne et notamment dans sa dimension inconsciente de cette problématique, qui va pouvoir à la fois de temps en temps pouvoir faire des interprétations les plus ciblées et les plus adaptées au discours du patient, mais aussi en étant dans une position transférentielle la plus adaptée. Position transférentielle, c'est donc, vous savez que ce qui se passe entre la personne en analyse et le psychanalyste, donc c'est ce qu'on appelle le transfert, de la part de la personne en analyse, c'est motivé par une dimension inconsciente, c'est-à-dire il va projeter sur le psychanalyste des images paternelles, des imagos paternels, C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, il va prêter à ce psychanalyste un certain nombre de choses qui sont issues de, ben voilà, de son inconscient qui va se diriger comme si, donc, par exemple, c'était son père, son psychanalyste. Donc, c'est important que grâce à cette écoute-là, le psychanalyste puisse percevoir au mieux cette dimension transférentielle et d'être le plus adapté possible justement dans cette relation thérapeutique. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire de cette dimension d'écoute tout à fait particulière qui existe en psychanalyse, mais en tout cas cette écoute va permettre d'accéder à une compréhension profonde de la personne et donc de connaître la personne. Voilà, donc moi c'était ça que je voulais apporter ce soir sur cette dimension d'écoute du psychanalyste et de la psychanalyse.
Oui, moi je voudrais dire quelque chose après toi.
Je t'en prie.
Bonsoir. Alors voilà Philippe, tu me permets de rajouter quelques petites choses et c'est vrai qu'on doit tous se demander, mais comment on arrive à cette écoute, à ce retrait, à ce silence pour écouter quelqu'un. C'est pas quelque chose que l'on peut, c'est pas quelque chose d'inné, cette écoute. Cette écoute, elle dépend aussi, d'ailleurs, c'est tout le cheminement du psychanalyste. Cette écoute, elle dépend aussi de la façon dont nous-mêmes, en tant que psychanalyste, on a été écouté par notre psychanalyste. Et sans cette dimension-là qui est en amont, cette écoute silencieuse et dans le retrait que tu décris très bien, Philippe, elle peut ne pas être adéquate. Et ce qui pose toute la question aujourd'hui, je trouve, de toutes les thérapies, de toutes sortes de thérapies, quelles qu'elles soient, sans les juger, comportementales, hypnose et autres, où en fait, tout le monde croit savoir écouter en fait. Mais on se demande dans ces thérapies-là, qui écoute qui en fait.
Ce que tu dis, Chantal, c'est finalement la problématique qu'on remet souvent au cœur, enfin que j'ai tendance à remettre parfois au cœur de toutes ces thérapies, comme tu dis. C'est-à-dire qu'à quel moment l'homme ou la femme, l'individu, c'est-à-dire en tant qu'individu, s'efface au profit du thérapeute strict. C'est-à-dire qu'il y a toujours un parti. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que thérapeute, que moi dans ma profession, dans la vôtre, je pense qu'il y a toujours une part de l'individu que chacun est qui reste au travers du thérapeute, c'est-à-dire qu'il y a toujours une évaluation en tant qu'individu par rapport à ce que tu as reçu. Tu parlais de l'écoute que ton psychanalyste a pu recevoir de toi avant que tu passes justement l'étape voilà. De psychanalyste. Et donc forcément, mais ça c'est quelque chose qui est intangible, je pense. Il y a toujours un individu qui se cache derrière le thérapeute et on ne peut pas, même si on essaye de minorer au maximum ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que le thérapeute s'efface au maximum pour laisser la place à son patient, il y a toujours la part de ce que l'on est en tant qu'individu. Je suis pas thérapeute de votre catégorie de profession, mais le principe est le même. On raisonne toujours, je pense, en tant qu'individu. En tout cas, moi, ce que je suis et l'ostéopathe en plus que je suis, j'ai du mal à me détacher de l'individu, de l'éducation que j'ai eue, de la prescription, des échanges. Et c'est un peu ce que tu sous-entends là. Maintenant, pour ce qui est de l'écoute, c'est vrai que c'est la première fois, je crois, dans un des thèmes, qu'on met le thérapeute, le récepteur au cœur de la problématique. C'est-à-dire que, en fait, pour qu'il y ait écoute, il faut qu'il y ait émission. Donc, il y a toujours le rapport entre l'émetteur qui est le patient, qui est l'individu en tant que tel, puisque je me place pas en tant que psy, puisque c'est pas mon cœur de métier. Et le récepteur qui est le psychanalyste, qui est le confident, qui est l'interlocuteur lambda finalement à qui on s'adresse. Et c'est vrai que je pense que je me place du point de vue de l'émetteur. En fait, quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, c'est quelqu'un qui interpelle, qui est pratiquement dans la supplication et qui fait appel finalement à tous les sens. On entend souvent, c'est « regarde-moi quand je te parle ». Écoute-moi, on parle d'écoute, ça fait appel à tous les sens. Chez nous, en ostéopathie, on parle de l'écoute tissulaire. On va toucher le tissu pour voir ce que le tissu peut exprimer. Donc, on est dans le tact, le toucher. On est dans l'expression, la verbalisation. On est dans l'environnement qui est créé. Je veux dire, même sur le plan olfactif, on reçoit plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a cette forme d'interpellation que l'on retrouve après même sur un plan mystique, puisque une des principales supplications qu'on a dans notre religion, en tout cas sur le plan du judaïsme, c'est Shema Israël, écoute, interpelle, j'interpelle, écoute. Donc, c'est quelque chose qui place finalement le thérapeute dans votre domaine entre quelqu'un qui est en bas et qui interpelle vers le haut. Il y a la symbolique chez vous, le patient qui est sur le divan et qui interpelle, qui est le thérapeute qui est dans sa verticalité. Et le paradoxe, effectivement, quand je dis que parfois il faut attirer le regard pour être écouté, et être écouté, c'est être entendu, et être entendu, c'est être compris, souhaiter l'être en tout cas, et on place le thérapeute, justement, chez quelqu'un qui s'efface le plus possible. C'est pour ça que peut-être vous êtes de dos le plus souvent à vos patients quand vous êtes en psychanalyse, en tout cas, c'est ce que je crois, et se placer dans une espèce de dimension un peu qui va, d'une certaine façon, vers lequel le patient va pouvoir projeter tous ses désirs ou tous ses rejets, comme on peut le faire avec Dieu. Dieu, pourquoi tu me punis? Et Dieu, que je t'aime parce que apporte-moi ce que tu as. Et quelque part, c'est une forme de déification aussi du thérapeute qui va recevoir tous les anathèmes de son patient, toutes les louanges de ce qu'il est. Je veux dire, c'est ce que vous appelez entre autres le transfert quand il a lieu, en tout cas. Donc, c'est un petit peu sous cette forme. Et sans parler de l'écoute, souvent on dit, il y a même dans l'acte, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Être à l'écoute, enfin, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça reste une interpellation. Et puis, c'est après la compréhension et l'analyse qu'on fait de tout ça, d'où la position d'analyste que vous êtes dans vos professions par définition.
Alors justement, il y a l'écoute du corps qui touche tous les thérapeutes comme toi, comme beaucoup, comme les médecins, et qui sont absolument nécessaires et qui vont écouter, comme tu dis, les tissus, qui vont écouter les symptômes, qui vont écouter les douleurs. Mais je pense que si on en reste au statut du corps, le patient, il va pas évoluer dans ses ressentis. Si on n'y met pas un peu de travail intellectuel et thérapeutique en complément, je veux dire, la somatisation, elle va rester.
C'est pour ça que je te dis, ça fait appel à toutes les écoutes, à tous les sens.
Absolument, absolument.
Donc, il n'y a pas un élément.
Absolument.
Et c'est peut-être ce que je disais il y a des années quand j'ai travaillé pour la première fois avec des psys, il y a 35 ans quand je commençais j'ai travaillé avec des psys notamment. J'ai dit quelque part, je me rends compte que on a une forme d'aide majeure par rapport à votre profession, c'est-à-dire qu'on a le toucher qui fait que les personnes ont l'expression finalement peut-être plus déliée, même si elle n'aboutit pas aux mêmes choses, et même si le but dans notre démarche n'est pas de faire aboutir à ce genre de choses, sinon c'est une perversion de notre propre profession sur ce plan.
En yoga et dans la tradition indienne, quand on parle des sens, il y a le mental qui englobe les cinq sens, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Et l'ouïe, c'est le premier, à savoir l'ouïe, il englobe le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Et en yoga, quand on s'allonge sur le tapis, pour bien détendre, on dit « venez à l'écoute de votre respiration ». Et en fait, en venant à l'écoute de la respiration, si on va affiner cette écoute, on peut même dire cette respiration, c'est comme si on venait la toucher, la voir, la goûter et la sentir. Et le fait d'écouter la respiration, ça emmène dans la conscience du corps qui écoute et qui perçoit. Et quelque part, l'écoute de la respiration, avec tous les autres sens, comme si on la goûtait, on la sentait, donc c'est très très fin, ça va amener un relâchement avec un état de conscience très très fin, qui reste éveillé. Et c'est ça le paradoxe. Et voilà. Et aussi, je voulais dire, par rapport à ce que disait Philippe et l'état du psychanalyste qui doit se mettre en retrait, je pense que pour avoir une bonne écoute, telle qu'elle soit, hein, d'une personne ou sans être psychanalyste, même, bah, on doit déjà être à l'écoute de nous-mêmes. Et il faut qu'on soit capable de s'écouter soi-même et que le mental il soit pas du tout parasité au moment où on écoute. Si on est complètement perturbé, qu'on pense à tout ce qu'on va faire, on ne peut pas être dans l'écoute. Donc, c'est vraiment… c'est très subtil, l'écoute. C'est,
oui. Même si, pour rebondir sur ce que tu dis, à l'inverse, on dit souvent chez les personnes qui se sentent pas bien, on lui dit bon, « arrête de t'écouter ». Je veux dire, on est l'injonction inverse, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est ces nuances aussi qu'on peut apporter. En tout cas, apporte une écoute juste et non pas une écoute pervertie. C'est peut-être plus ça. Ouais. Écoute-toi ouais. Mieux. C'est écoute-toi mieux, peut-être. Alors, je rectifie.
Écoute ton patient plutôt que de t'écouter toi-même, quoi, en fait.
Hein? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas sous cette forme. C'est ce que dit Léa. Elle dit, pour être totalement disponible à l'autre, il faut déjà se connaître soi-même, donc par sa propre écoute. Une fois qu'on se connaît, tu prends la distance entre effectivement la personne lambda qui s'exprime auprès de toi, qu'il soit patient, ami, interlocuteur fécond, et qui te permet finalement de prendre la distance entre ce que tu es en tant qu'individu et ce qu'il t'apporte lui dans son expression et sa recherche d'une vérité, d'une écoute ou d'une compréhension de ce qu'il a à t'apporter ou à demander. Je crois à l'air, hein, si je me trompe
oui,
pas.
Oui, il faut que le mental il soit purifié à ce moment-là, qu'il soit neutre, qu'il soit limpide. Voilà. Sans être dans le jugement, avoir des a priori, voilà, c'est…
Oh. Si je peux me permettre, pour moi, une bonne… Vous m'entendez ?
Oui.
Super, super, Patricia.
En dehors de la psychanalyse… dont je ne fais pas partie, mais je vous écoute depuis tout à l'heure. En tout cas, pour moi, une bonne écoute, c'est un accompagnement. Et le fait d'accompagner, c'est vraiment une grande disponibilité. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, même pour une bonne écoute, effectivement, il faut être disponible. Il y a effectivement des sens qui interviennent. Parce que, par exemple, on va écouter quelqu'un et quelqu'un va s'arrêter dans son discours. Et quelquefois, pour l'accompagner et le faire continuer à parler, on peut être amené à lui toucher la main et dire « Ah ben oui, tu veux dire quoi ?» Enfin, on va peut-être quand… mais en tout cas, il y a le tactile qui est important dans l'histoire. Il y a aussi bien les oreilles, la compréhension, les yeux et puis la compréhension tactile. Ça, je veux dire, c'est vrai que l'écoute… on ne peut pas être complètement non plus, hors psychanalyse, je pense. On doit être et en retrait. Néanmoins, il peut y avoir certains moments où on doit accompagner les gens qui nous demandent de l'écouter. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'ai parlé d'une certaine spécificité d'écoute. Du psychanalyste, mais ça, évidemment, ça englobe quand même, c'est englobé par l'écoute au sens plus large. Hein, c'est-à-dire tout ce qui a été dit de Léa et tout, je suis complètement, et de Franck, je suis tout à fait d'accord, et de Patricia, sur le fait que, évidemment, beaucoup de choses sont associées. À l'écoute. Et j'ai pensé que mon neveu, il est en train de perdre son père, qui est vraiment en soins palliatifs et qui est très voilà, qui vit ses derniers moments, et il me posait la question de savoir comment, en quelque sorte, comment alors, il ne m'a pas dit comment il devait écouter son père, mais c'était un peu ça, en fait, la question. C'est comment il devait être pour qu'il y ait une communication, finalement, entre son père et lui, mais la plupart du temps, sans parole. Et c'est là où ça rejoint, je donne cet exemple-là, parce que ça me touche personnellement, et puis ça rejoint tout ce qui a été dit de Franck de Lettre, c'est que l'écoute, c'est aussi le lien de corps à corps et le ressenti, et que c'est aussi comme ça qu'on écoute les gens. Donc, voilà, c'était cet exemple-là aussi. Je vous propose qu'on donne la parole à Joël. Un petit peu de...
C'est-à-dire, c'est vraiment un thème où il n'y a pas une très grande différence entre la psychanalyse et la philosophie, parce que c'est au fond centré sur la parole. À ceci près que le psychanalyste a pris l'écoute pour la sienne, c'est-à-dire qu'il a parlé de lui en comment moi je dois écouter mes patients et comment je dois être à l'écoute de ce qu'ils me disent de façon consciente ou inconsciente. Le philosophe, c'est vraiment l'inverse, puisque c'est lui qui parle. Il parle au nom d'une recherche de la vérité, ben, qu'il prétendrait détenir, enfin, en tout cas une parcelle de vérité. Mais s'il n'y a personne qui l'écoute, ça ne sert à rien. C'est comme un médecin qui donnerait une posologie de médicament à un malade. Si le malade n'écoute pas ce que lui dit le patient, il ne guérira pas. Donc, le philosophe, il a besoin d'avoir quelqu'un qui l'écoute. Non pas pour acquérir cette part de vérité qu'il tiendrait lui en tant que parlant et sachant, mais parce que cette parole va transformer l'autre, va permettre à l'auditeur, sans lequel il n'y a pas de philosophe, s'il n'y a personne qui écoute. Il parle dans le désert, donc c'est dit dans la Bible, ça aussi. Et donc, ce thème qui est vraiment, enfin, la parole qui est le lieu d'échange entre des âmes, même si les philosophes n'aiment pas beaucoup ce terme, mais ça fait allusion à quelque chose qui dépasse le corps dont vous parlez. C'est vraiment la recherche d'une augmentation de la connaissance de soi et du monde. C'est en ce sens que je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus du côté de la philosophie à apprendre de ce que vous avez, vous, à apprendre du côté de la psychanalyse et de la psychologie.
Voilà, merci. Alors, là, il y a une qualité d'écoute exceptionnelle ce soir.
Ouais, je peux éventuellement dire quelque chose. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Alors, je n'ai pas eu le temps de préparer ça depuis très longtemps, mais j'ai quand même Trac m'a donné le thème hier, je crois, avant-hier. La première chose à laquelle ça m'a fait penser, je me souviens à l'école quand on expliquait la différence entre écouter et entendre, qui paraît quand même assez similaire, on t'a toujours dit la différence entre écouter et entendre, c'est que quand on entend, on comprend ce que l'autre dit. Entendre, c'est comprendre. Et c'est vrai que je l'ai souvent, du coup, interprété comme si, en fait, finalement, l'écouter, ça voulait dire de ne pas faire attention à ce que dit l'autre. Et je pense que beaucoup de gens peuvent l'avoir interprété comme ça. Et alors, j'ai appris par la suite que c'était assez faux, mais c'est vrai que depuis, je me suis mis à faire plus récemment des formations pour des managers, et souvent, il y a ce thème de l'écoute qui revient. Et les managers, on leur propose de les former à ce qu'on appellerait l'écoute active. Donc, l'écoute active, tel que ça leur est expliqué, ça serait d'écouter tout en prêtant attention, et en montrant des signes visibles d'intérêt à ce que dit l'autre, et en faisant pas autre chose en même temps, ce qui arrive souvent dans les entreprises, par exemple, quand quelqu'un parle à quelqu'un d'autre, les autres font autre chose. Et donc, finalement, ce serait de dire que d'écouter, c'est pas seulement c'est montrer de l'intérêt, en fait. Et je pense que dans ce que vous parliez tout à l'heure, dans l'écoute notamment du thérapeute, ce qui a un vrai impact, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, quand quelqu'un a besoin d'être écouté, c'est qu'il a besoin qu'il tire ce signal d'alarme quelque part, il demande à être écouté. Et être écouté, c'est aussi être, pas seulement être compris dans le sens de ce que les gens disent, mais surtout laisser place, en fait, en tant que réceptacle, à la voix de l'autre et montrer surtout qu'on s'intéresse à ce que la personne dit et puis surtout à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à ce que la personne ne dit pas forcément, à ce que la personne peut communiquer tout en parlant par ses gestes, par son langage corporel. Et c'est vrai que finalement, parfois, quand les gens racontent quelque chose, on passe forcément besoin qu'on comprenne le sens de leur histoire, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on raconte cette chose-là. Et finalement, c'est vrai que l'écoute, si entendre, c'est comprendre, écouter, c'est s'intéresser, c'est ressentir, et c'est accepter la parole de l'autre pour ce qu'elle est. C'est à peu près ça que ça m'inspire.
Merci, Simon.
Alors, c'est toujours un plaisir de voir que souvent quand on passe au sujet de Torah, on retrouve pas mal de choses qu'on a parlé depuis le début de la séance. Et donc, ça va être vraiment intéressant de voir de faire le lien avec. Je crois que c'était Patricia qui avait dit ça englobe les autres sens. On va parler du schéma. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Alors, on va commencer déjà par le schéma Israël. Alors, on sait que le schéma, c'est la pierre de essentielle. Et c'est celle qui est écrite dans la mezouza. Alors pourquoi on va essayer de relier un petit peu l'idée de écoute, puisqu'il y a écoute Israël, et finalement cette idée de écouter, c'est pas simplement une idée volatile, mais c'est une idée qui est fixée à l'intérieur de notre vie, puisque la mezouza, on la fixe. Ça veut dire que cette idée-là, ça doit être une idée qui est ancrée chez nous. Et donc, c'est-à-dire que ça cache quelque chose d'important, et donc on va essayer de mettre en valeur cette chose-là. Et bien comprendre pourquoi d'ailleurs c'est l'idée d'écoute qui est à la porte de nos maisons. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qu'on va aussi développer, il y a une histoire que la Torah raconte qui est liée aussi à l'écoute. C'est que lorsque à l'époque quelqu'un avait un serviteur chez lui, il devait travailler un certain nombre d'années parce que soit il devait rembourser un vol ou soit c'est un serviteur qui aurait pu être vendu par le tribunal pour rembourser un vol qu'il ne pouvait pas lui-même rembourser, ou alors quelqu'un qui s'appauvrit, qui n'a pas de quoi se nourrir, eh bien on le mettait dans une maison et il devait servir la famille et pendant un certain nombre d'années. Et au bout de 7 ans, il devait être libre. Mais si cette personne-là exprimait l'envie de vouloir rester encore chez le maître, eh bien, on lui poinçonnait l'oreille. Donc, c'est là où on va voir l'idée d'écoute. On lui poinçonne l'oreille parce qu'on lui dit, voilà, tu avais un commandement qui était le premier des 10 commandements. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'était sorti d'Égypte. Donc, tu dois avoir une relation, un lien avec Dieu. C'est Hachem, ton maître. Et toi, tu décides d'avoir, entre guillemets, comme un autre maître, et tu veux toi-même poursuivre avec ce maître par ta propre volonté. Alors, à ce moment-là, l'oreille qui a écouté sur le mont Sinaï, eh bien, que ça doit être Dieu ton Dieu, je suis Hachem ton Dieu, c'est cette oreille-là qu'on poinçonne, et justement, au niveau de la porte, ça veut dire à côté de la mezouza. Donc, il va falloir aussi comprendre aussi cette histoire-là, l'idée, quel est le lien qu'il y a entre... l'idée de pourquoi on poinçonnerait spécialement l'oreille. On ne voit pas ça dans les autres fautes, que si quelqu'un fait une erreur avec un membre, on va lui attaquer son membre en particulier. Pourtant ici, l'oreille qui a écouté sur le mont Sinaï et qui quelque part n'a pas tiré le son qu'on doit avoir que notre maître, c'est Dieu, et bien là, on lui pense à l'oreille. Ça aussi, on va développer ça. Et pour commencer à expliquer ces sujets-là, on va d'abord voir que dans la Torah, l'idée d'écoute, elle a plusieurs sens. Elle a quatre grands sens. Et en fait, je ne vais rien vous apprendre parce que déjà, on en a développé au moins deux déjà avant moi. Le premier, eh bien, c'est écrit dans la Torah que lorsqu'il y avait la rencontre entre Yosef et ses frères, c'est marqué que lorsqu'on les frères s'adressaient à Yosef, c'est marqué que ils s'adressaient à Yosef, ils disaient voilà, on t'écoute, dans le sens que on te comprend, d'accord. Donc de là-bas, on apprend de l'histoire de Yosef à ses frères que c'est pas simplement qu'ils ont entendu mais qu'ils entendaient bien le dialogue, mais c'est qu'ils se comprenaient. Donc l'idée d'écoute, c'est lié avec l'idée de compréhension. Deuxièmement, donc, et cette idée de compréhension, elle est liée à la force de la pensée. Puisqu'on réfléchit à quelque chose, on écoute, on y réfléchit, on y pense, et on intègre la chose. Deuxièmement, l'idée d'écoute dans la Torah, c'est aussi lié à l'action. Puisque en hébreu, écouter, ça veut dire c'est baïshma. Baïshma, ça veut dire il a écouté. Et dans les prophètes, lorsqu'on parle du roi Saül, le roi Shaoul, on dit que Baïshma Shaoul est à Ham. Eh bien, alors si on traduit littéralement, Shaoul a écouté le peuple, mais en fait, le sens là-bas est Shaoul a rassemblé le peuple. Donc, ça veut dire que ici, le mot écouter, il a été employé pour une action de faire un rassemblement. Donc, on voit que l'idée de l'écoute, elle est liée à une action. Ensuite, l'écoute, elle est également liée à la parole. Ça, c'est tout simple à comprendre, parce que forcément, on écoute des paroles qui nous sont adressées. Et enfin, on va revenir encore sur le roi Shaoul. L'écoute, elle est liée également à la soumission, puisque lorsque Shaoul avait désobéi au prophète Shmuel, et il avait décidé, Shaoul, il avait décidé d'offrir certains animaux qui étaient des animaux qui appartenaient au peuple d'Amalek, il avait décidé de les offrir en sacrifice. Et ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Le prophète Shmuel avait dit qu'il fallait également tuer le bétail d'Amalek. Et d'ailleurs, ça lui a valu d'être que son fils ne sera pas, sera pas son fils qui va le succéder, mais ça sera le roi David qui le succédera. Et là, le prophète va voir le roi Shaoul et lui dit « Chez moi, Misevartov. Chez moi, écoutez, c'est beaucoup mieux que des bons sacrifices. Tu aurais mieux fait d'écouter plutôt, ça veut dire donc que tu aurais pu avoir de la soumission, même si tu avais peut-être des bonnes intentions, hein, et que tu avais pensé que ça serait peut-être bien d'offrir des animaux qui étaient dans le domaine, de, entre guillemets, du mal du peuple d'Amalek et de les élever, de les offrir à Dieu. Oui, mais ça, c'est peut-être une bonne réflexion. Mais lorsqu'on a dans la balance une bonne réflexion, de l'autre côté de la balance, eh bien, la possibilité d'obéir, eh bien, obéir, c'est plus important qu'une bonne réflexion. Et donc, ça, c'est ça que Shmuel dit à Shaoul et le réprimande en disant qu'il aurait mieux fallu d'écouter parce que l'écoute, c'est lié donc à l'idée de soumission. Alors, on va commencer à expliquer déjà, on va revenir un peu avec cette idée du serviteur qu'on poinçonne l'oreille, parce qu'il avait décidé lui-même de poursuivre encore une période de servitude chez le maître. Pourquoi on va lui poinçonner l'oreille? À quoi correspond l'oreille dans la Torah? Eh bien, l'oreille dans la Torah, elle correspond à l'essence de la personne. C'est-à-dire, comme on avait dit que tout à l'heure que l'ouïe, il inclut également les autres sens. Eh bien, en réalité, l'oreille, c'est l'idée d'écoute. Et cette idée d'écoute, elle est liée à l'essence. Comment expliquer que l'écoute, c'est lié à l'essence d'une chose? Dans la Torah, on fait une grande différence entre la vision et l'écoute. Quand on voit quelque chose, et là, c'est intéressant parce que l'oreille, on ne voit pas beaucoup. C'est comme si c'était l'extrait avec le grand, C'est pour se concentrer sur l'écoute. Quelle est la différence entre une écoute et une vision. Alors, c'est vrai qu'il y a une qualité dans une écoute, dans une vision. La qualité d'une vision, c'est que en un instant, je peux voir la chose. Je regarde la bouteille, je l'ai vue 2-3 secondes. En 2 secondes, je peux plus ou moins te décrire comment elle est. Mais ça reste malgré tout superficiel. Lorsque quelqu'un va venir et décrire quelque chose en long, en large, en travers, je vais pouvoir comprendre vraiment profondément la chose. Je ne vais pas avoir une vue juste générale, extérieure comme une vision, mais je vais pouvoir saisir un sujet de façon profonde. Et ça, c'est l'idée de l'essence d'une chose. Lorsque il a été question du premier commandement, je suis Hachem ton Dieu. Je suis Hachem ton Dieu, c'est le commandement général qui englobe tout. Ça veut dire ça correspond à l'essence de la Torah. Que, ça veut dire simplement que quand tu fais une action, quand tu fais n'importe quelle bonne action, ça doit toujours être relié avec le premier commandement. Je suis Hachem ton Dieu. Tu ne dois pas faire cette action-là parce que toi-même, tu as jugé que c'était quelque chose de bien ou tu fais c'est une bonne chose, ça va apporter du bien autour de toi. Ce n'est pas ça qui doit motiver ta bonne action. Quand tu vas étudier la Torah, quand tu apprends quelque chose, la motivation, ce n'est pas « je vais apprendre une nouvelle idée » ou « je vais devenir plus intelligent ». Ce n'est pas ça ta motivation. La motivation principale, ça doit être « eh bien, je m'attache à Dieu ». Par cette étude, je m'attache à Dieu. Par cette bonne action, eh bien, je suis soumis à Dieu. Avec ça, on peut comprendre eh bien, que lorsque eh bien, on est en train d'écouter quelque chose, eh bien, on est attaché donc à l'essence de la chose. Et on fait une grande différence entre la génération de Moshe, qui s'appelle une génération de la vision, parce qu'eux, ils ont vu toutes les merveilles. Ils ont vu le don de la Torah, ils ont vu l'ouverture de la mer, ils ont vu des grands dévoilements de Dieu. Et la génération qui va rentrer en Israël, eux n'ont rien vu. On leur raconte. Puisque le livre, le cinquième livre de la Torah, c'est un récit. On va tout répéter, mais eh bien, on va tout répéter. Donc, ils vont réécouter tout ce qui s'est passé avant. Eh bien, qui va être plus attaché à l'essence de la chose, ce n'est pas celui forcément qui a vu. Parce que quelque part, on peut voir quelque chose, on peut voir quelque chose, mais avoir le sentiment d'être toujours être un petit peu extérieur à la chose, comme on est spectateur à la chose. Par contre, celui qui entend, qui comprend, ça rentre à l'intérieur de lui, et là, ça peut former un avec lui-même, et à ce moment-là, ça devient une seule chose avec lui. Et donc, la génération de l'écoute, la génération de la rentrée en Israël, eh bien, finalement, elle a une qualité par rapport à la génération de la vision. Et d'ailleurs, c'est ce que la Guémara, le Talmud de Sanhédrin dit. Il y a une phrase qui est dans des proverbes qu'on dit d'ailleurs tous les vendredis soirs, juste après Shalom Aleichem, qui est Sheker Achen et Evel Ayofi, Isha Yirat Hashem Ititalal. Sheker Achen, mensonge, Rosh Lomo ici, et la grâce, futilité et la beauté. Et c'est une femme qui craint Dieu, qui est, elle, mérite des louanges. Et la Guémara là-bas dit, quand on parle de futilité et la beauté, mensonge et la grâce, on parle à la génération de Moshe. Elle est appelée futilité, elle est appelée mensonge, parce qu'en fait, c'est un folklore. On voit tout est un grand spectacle, une grande vision. Et par contre, une femme qui craint Dieu, elle est allouée, c'est elle qui est digne de louange. On parle de la génération qui rentre en Israël, parce qu'elle, c'est une génération d'écoute, et donc ils vont faire un avec l'enseignement qui va être. La même chose également lorsque Moshe et Moïse a regardé, Dieu lui a montré toutes les générations. Il y a une génération où il a eu le sentiment d'être humble. Et il s'est senti très humble par rapport à une génération, c'est laquelle ? La nôtre. La génération qui précède la venue du Mashiach, du Messie. Pourquoi ? Parce que nous, on est à la ressemblance de la génération qui rentre en Israël, pas une génération de vision. Il n'y a rien à voir. On ne voit pas, même quand Dieu veut s'exprimer, ça sera toujours en cachette. Les miracles seront cachés. Il n'y aura pas de dévoilement. L'idée d'exil, c'est l'idée d'être caché. Mais par contre, il y a beaucoup à écouter. Il y a beaucoup à apprendre. Et quand c'est que vraiment, d'ailleurs, on vit une période tout à fait particulière, c'est qu'on vit même après la période du départ du rabbi physiquement, ça fait déjà maintenant plus de 20 ans, donc il y a encore moins à voir, mais il y a tout à écouter. Et quand on écoute quelque chose, eh bien, on s'attache à l'essence même de la chose. Et c'est pour cela que dans la Torah, c'est marqué qui est le plus important. Est-ce que le plus important, c'est le sage ou est-ce que le plus important, c'est le prophète? Eh bien, la réponse, c'est que le plus important, le plus élevé, ce n'est pas le prophète. Certes, le prophète, il a beaucoup de qualités. Dieu lui parle, il y a de la vision, il y a des dévoilements. Mais justement, le fait qu'il y ait des dévoilements, le fait qu'il y ait de la vision, ça limite la chose. Puisque qui dit vision, dit dévoilement, forcément, c'est lié à des choses matérielles. On est limité à ce que notre œil peut voir, à ce qu'on peut percevoir. Et donc, on reste dans un certain cadre, qui est un cadre limité. Alors que lorsqu'un sage, qui lui va comprendre des choses, qui va pouvoir expliquer des notions, eh bien, ce sage-là, il dépasse le prophète. Parce qu'on va pouvoir saisir des choses qui dépassent même l'ordre du côté matériel, l'ordre de la vision, ou qui rentrent dans un cadre complètement illimité. Parce que lui, il est beaucoup plus spirituel, eh bien, que la vision. Et avec ça, pour illustrer ça, donner un petit exemple pour bien comprendre comme quoi vraiment lui, il est lié à l'essence de la personne. Et après, on reviendra avec la mezouza et on conclura. Dans la Torah, quelqu'un qui, si un maître blesse son serviteur, bien sûr, il doit lui payer. Quelqu'un qui blesse son serviteur, donc il doit lui payer un dédommagement en fonction de la blessure qui a été donnée. Donc, s'il a blessé à l'œil, on va évaluer le dommage qui a été causé. Il paiera une personne. Pareil, s'il a été blessé au pied, au bras, etc. On va évaluer maintenant l'handicap qui a été causé à ce serviteur et on devra débourser l'argent pour le dédommager. Si un maître a rendu sourd son serviteur, on n'évalue pas le dommage, il doit payer la somme totale, entièrement, toute sa valeur entière. Par contre, on ne va pas évaluer quelle est la différence entre une personne qui a la possibilité d'entendre et celui qui n'a pas la possibilité d'entendre. Non, on ne rentre pas dans cette considération-là. Puisque l'oreille, elle est liée à l'essence de la personne, en réalité, lui, l'écoute, c'est toute la personne. Quelqu'un qui a perdu l'écoute, eh bien, il faut lui payer entièrement sa valeur entière. Et donc, ça illustre bien ce qu'on dit, que vraiment l'écoute, eh bien, c'est lié à l'essence. Et bien, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande de vivre, pas avec du folklore, pas avec de la vision, mais être un juif qui exprime toute celle dans sa vie, eh bien, son essence, l'essence de son âme. Ça veut dire quoi, exprimer l'essence de son âme? Ça veut dire que lorsqu'on apprend quelque chose, lorsqu'on fait une bonne action, on doit le faire pleinement avec tout son être. Pas comme quelqu'un qui voit quelque chose, quelqu'un qui est un peu extérieur ou il va prendre une distance par rapport à la chose. Non, on est complètement unis avec ce qu'on fait. Et voilà, maintenant, on comprend pourquoi, eh bien, spécialement, c'est le schéma qui a été choisi à mettre dans la mezouza et à nos portes. C'est quoi l'idée de mettre une mezouza dans sa maison? Mettre une mezouza à sa maison, ça veut dire que la maison, c'est la maison de Dieu ici. Ça veut dire que moi, je mets de côté mon existence et pour faire en sorte que cette maison-là, elle est apte à ce que Dieu puisse y habiter, à ce que Dieu y puisse vivre. Et moi, mon existence, je la mets de côté. Et donc ça veut dire vraiment que je n'y a pas Dieu et moi, mais Dieu et moi, c'est complètement uni. Et donc, cette idée-là, elle doit rester, ce n'est pas une idée juste superficielle en plus de d'autres idées, c'est une idée qui doit être fixée à l'intérieur de nous, qui doit être unie à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça que c'est cette idée-là, l'idée du schéma qui est placée à la mezouza, qui est fixée et qui a forcément une influence sur toute notre vie, sur tout ce qui est toute notre vie, c'est-à-dire notre maison, notre vie personnelle. Et c'est avec cette idée-là de vivre avec l'essence, eh bien, qu'en vivant de la sorte, en se comportant comme ça, pas en soi-même, eh bien, ça va permettre le dévoilement de l'essence de Dieu. Et ça se passera avec la venue de Mashiach. Quand Mashiach viendra, eh bien, à ce moment-là, on aura les deux qualités, et la qualité de la vision et la qualité de l'écoute, qui seront réunies ensemble. Ça sera un petit peu comme ça s'est passé au don de la Torah, où au don de la Torah, ils ont pu voir des choses qui étaient audibles et ils ont pu entendre des choses qui normalement ne peuvent que se voir. Ces deux qualités-là se rassembleront quand ma chère viendra et jusqu'à très bientôt.
Merci.
Avec plaisir.
Magnifique.
D'ailleurs, cette supplication-là, quel est le schéma Israël ? Écoute, Israël, ce que tu dis pour rebondir, ce que j'avais effectivement imaginé, c'est la notion des cinq sens que l'on interpelle, que Léa a repris après, et que tu exprimes dans le schéma Israël. Il y a quelque chose d'assez interpellant quand même aussi, c'est que quand on fait le schéma, donc je supplie le Tout-Puissant, je faisais l'analogie avec le patient qui supplie son thérapeute, mais je supplie le Seigneur, finalement, en occultant mes autres sens. C'est-à-dire qu'en fait, le signe du schéma, c'est de fermer les yeux, de mettre la main devant le visage, de mettre la main devant le nez, de mettre la main devant la bouche. C'est-à-dire qu'on va occulter la vue, on va occulter l'odorat, par le côté tactile et le goût éventuellement par la bouche. Et le côté tactile, on mobilise, enfin, c'est au travers de ce que tu dis, qu'on mobilise de façon absolue finalement, cette quête de l'écoute par cette supplication écoute. Par ma parole, je suis l'émetteur et je demande à l'auditeur, au récepteur, d'écouter et d'aller au-delà de ça. Mais je mobilise avec une telle puissance que je suis obligé d'occulter les quatre autres sens pour n'en mobiliser qu'un seul, pour qu'il aille droit à celui qui est censé recevoir cette supplication. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, j'ai l'impression.
Exactement. Ce qui veut dire qu'en réalité, la vision dérange.
Oui.
Ça veut dire que l'écoute, comme c'est lié à l'essence de la personne, finalement, la vision du côté extérieur, finalement, c'est un frein à l'écoute. Et donc, c'est pour ça, finalement, que comme l'idée du schéma, c'est vraiment l'idée de se donner pour Dieu, et ben, c'est pour ça qu'on ferme les yeux à ce moment-là.
Alors, oui et non, parce que, en fait, encore une fois, là, je ne te suis pas totalement, parce que justement, celui qui se voile les yeux, c'est celui qui est en quête de l'écoute de l'autre. C'est pour ça que souvent, je disais tout à l'heure, enfin, c'est un point de vue, en tout cas, c'est une idée. Si ce n'est pas un point de vue, c'est on dit « regarde-moi quand je te parle de façon à ce que tu m'écoutes mieux. Regarde-moi, oui. Écoute-moi. » Mais donc, celui qui est censé être le récepteur, on lui demande au contraire d'être ouvert à tous ses sens pour nous recevoir en tant qu'émetteur, qui le supplie, mais moi, en tant qu'émetteur, je vais occulter tous mes autres sens pour aller dans cette supplication par ma prière, donc par ma voix. Donc, par la voix, par la parole, si on reprend le thème de la psychanalyse. La parole du patient vis-à-vis de l'écoute maximum qu'il attend de son thérapeute. La parole de l'individu lambda vis-à-vis de son ami à qui il se confie. La parole de qui on veut, ce qu'on appelle la communication absolue, quoi. Donc, écoute active pour reprendre ce que disait Simon.
Et dans la psychanalyse, le patient ne voit pas son thérapeute.
C'est ce que je disais tout à l'heure quand on est de dos, hein, justement, la verticalité et le côté d'être couché, ne pas le voir.
C'est ça.
Et aussi, dans les lois sur le tribunal, lorsqu'il a quelqu'un a vu quelque chose, a été témoin de quelque chose, il est disqualifié pour être le juge. Parce qu'à partir du moment où tu vois quelque chose, tu ne peux plus être à l'écoute. C'est-à-dire que tu as vu, donc tu ne peux plus trouver un côté…
Tu n'as plus d'objectivité, en fait.
Trouver aussi, il ne doit pas juger sévèrement, il doit juger justement… Et il doit aussi savoir trouver les circonstances atténuantes des différentes parties qu'il est en train d'écouter. Mais si ce juge-là, il a vu l'action, il ne peut plus juger parce que là, il va être trop tranchant dans son jugement. Donc, en quelque part, ça montre encore cette dualité entre la vision et l'écoute.
Super.
Merci.
Bon, ben, finalement, c'était un très bon thème. C'était un très bon thème, il a fallu qu'on s'écoute, quoi, en fait. Et c'était très bien qu'on vous ait pas sur le grand écran, qu'on est sur le petit écran. Ça nous a forcé à prêter l'oreille à vous écouter encore mieux. Alors écoutez justement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient dire quelque chose ou tout le monde a dit ce qu'il souhaitait dire? Bon. Bah écoutez, moi, je vous propose qu'on s'arrête là, à ce moment-là. Et merci à tout le monde de toutes vos interventions.